Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mission Féminine sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour Victoria, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien et toi Héloïse ?
Oui, merci, nous sommes vos présentatrices et nous vous emmenons découvrir cette émission spéciale réalisée par les secondes du lycée Albert Camus.
Nous sommes sur 93.9 FM et nous allons parler de l'évolution de la place des femmes dans l'espace. Nous avons fait cette émission car nous sommes allés voir Cosmos, une pièce au théâtre de l'Avant-Scène à Colombes, mise en scène par Maëlle Poésie. Cette pièce traite des Mercury 13 qui sont représentées par 5 femmes, avec chacune une histoire qui leur est propre. Malgré ça, elles ont tout un point commun, le désir d'aller dans l'espace.
Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons nos deux chroniqueurs, Juliane et Adèle, qui vont présenter les Mercury 13.
Ensuite, nous accueillerons Jules Grandcyr, qui se fera interviewer par Joséphine.
Et nous finirons cette émission avec notre chroniqueur Adrien, qui va parler de la contribution des femmes dans l'astronomie.
Mission féminine.
Tout de suite, nous accueillons nos chroniqueurs Juliane et Adèle. Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Aujourd'hui, vous venez nous parler des Mercury 13.
Notre histoire se déroule au début des années 1960. C'est durant cette période que prend place la guerre froide, où les États-Unis et l'URSS s'affrontent. C'est le début d'une course à l'espace et c'est celui qui ira le plus loin qui gagnera.
Et c'est là qu'arrivent les Mercury 13, 13 femmes destinées à aller dans l'espace.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ces femmes ?
Il faut des années d'entraînement en tant que pilote. En effet, elles font toute partie de l'élite des pilotes de ligne américaine.
Au début, elles étaient 25, mais après avoir subi des séries de tests physiques, comme se prendre plusieurs jets ou des entraînements intenses, mais aussi des tests psychologiques, il n'en restait plus que 13.
Oui, enfin, évidemment, elles n'ont pas fait aussi bien que les hommes.
C'est faux, elles ont obtenu d'excellents résultats, et elles ridiculisent même parfois les hommes. Comme pour le test de privation de sens. Le record masculin est de 3 heures contre 11 heures pour les femmes.
Donc elles étaient vraiment bien préparées. Qu'est-ce qu'elles ont fait une fois dans l'espace ?
Malheureusement, elles n'y sont jamais allées. À cause du sexisme de l'époque, on considérait qu'envoyer des femmes dans l'espace était totalement inutile.
On se demande même, si on commence à envoyer des femmes dans l'espace, quelles autres minorités va-t-on devoir y envoyer ?
Même William Randolph Lovelace, l'homme à l'initiative du programme Mercury 13, ne répond pas à leurs protestations.
Certaines sont même passées à la télévision, comme Jerry Cobb, et jouées de leur pouvoir et de leur influence, comme Jane Hart, qui était aussi l'épouse du sénateur du Michigan.
Elles ont même été auditionnées au Congrès américain pour pouvoir intégrer la NASA. Mais leur demande a été rejetée car l'organisation exigeait que ses membres aient bénéficié d'un entraînement de pilote de chasse.
Mais c'est injuste, les femmes n'avaient pas le droit à cette époque d'être pilotes dans l'armée.
Et c'est comme ça que ça se finit ?
Non, en 1963, l'URSS envoie la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova.
Et c'est en 1983 que les États-Unis ripostent en envoyant la première américaine du nom de Sally Ride.
Oui, mais pour les Mercury 13.
Eh bien, en 2021, une participante du programme Mercury 13, la plus jeune de toutes, s'envole pour les étoiles. Wally Funk devient la femme la plus âgée à jamais être allée dans l'espace, avec 82 ans.
Et il y a beaucoup d'autres femmes qui ont suivi le pas de ces héroïnes, comme Ayu Yoneda, Peggy Whiteson, Christina Koch, Sophie Adeno et Sunita Williams.
Merci à vous, nous revenons dans un court instant après une petite pause musicale.
So far.
d'écouter Back to Black de Amy Winehouse. L'émission Mission Féminine continue sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Joséphine. Vous recevez Jules Grandcyr.
Bonjour Jules Grandcyr, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de communication à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et créateur du podcast Elles font l'espace. Tout d'abord, Bonjour. Quel est votre cursus scolaire?
Oui, d'abord, je dois corriger, je ne suis pas le directeur de la communication à l'ESA, il n'y a pas de directeur de communication à l'ESA, mais je suis responsable de la communication, donc je travaille dans le département de communication de l'ESA, et je suis aussi le créateur, effectivement, et l'animateur du podcast Elles font l'espace. Bonjour, Joséphine. Je ne me souviens plus de ta question, du coup.
Quel est votre cursus scolaire?
Ah, mon cursus scolaire. Moi, quand j'étais au lycée, j'adorais les livres, j'adorais la philosophie, j'adorais l'histoire, et... je me suis lancé dans des études de littérature. Dans ces études de littérature, je suis tombé amoureux de la littérature médiévale. Et donc j'ai écrit une thèse sur la littérature médiévale de l'espace franco-allemand. Donc sur ce qu'on appelle le Mittelhochdeutsch, c'est l'allemand du Moyen-Âge. Et deux romans de la table ronde de cette époque-là. Et puis ensuite, j'avais 22 ans quand j'ai fini ça, j'ai fait un master d'administration des affaires, donc un MBA, qui était un petit peu focalisé sur la communication.
Très bien. Pourquoi vous êtes-vous orienté vers le milieu spatial?
Donc à la fin de ce master d'administration des affaires, je devais faire un stage à l'étranger de 6 mois. Et à l'époque, j'étais à l'université de Metz. Et j'étais aussi très amoureux de Donate Weckhorn, qui est une astrophysicienne allemande et qui habitait à Bonn, en Allemagne. Et j'ai découvert qu'il y avait le Centre européen des astronautes à Cologne, à 30 km de Bonn. Et je me suis dit, ce serait une très très bonne idée de faire un stage au Centre européen des astronautes. Parce que, un, je serais très proche d'elle. Et deux, peut-être qu'elle me prendrait un peu plus au sérieux si je faisais un truc avec des astronautes.
Pour quelle raison votre podcast est-il consacré aux femmes?
J'avais d'abord fait un podcast sur les figures de l'ombre un petit peu du spatial, les gens que je connais qui ont plein d'histoires à raconter mais qui sont pas forcément mises en avant comme les astronautes. Et ça s'était très bien passé, on avait fait une saison numéro 1, ça s'appelait La Fabrique de l'espace et c'était diffusé sur RTL. Et dans cette première saison, il n'y avait que 2 épisodes avec des femmes, j'avais pas vraiment calculé, j'avais pris ça comme ça. Mais ça représente finalement le pourcentage de femmes, il n'y a que 20% de femmes dans le secteur spatial, en Europe et dans le monde, à vrai dire. Et donc, je voulais faire une saison 2 qu'avec des femmes, histoire d'augmenter un petit peu cette représentation. Mais je ne me suis pas entendu avec le diffuseur sur les modalités de cette deuxième saison, justement pour cette question-là. Et j'avais trouvé ça un petit peu bizarre à l'époque. Je trouvais que c'était relativement consensuel de se dire « Ok, mettons les femmes en avant, comme vous le faites dans Mission Féminine ». Et donc, j'ai décidé de le faire moi-même avec des amis. On a lancé ce podcast un petit peu en indépendant, sur mon temps libre. Pour augmenter la représentation, encore une fois, des femmes, pour que les jeunes filles, les jeunes femmes qui regardent le ciel depuis très longtemps, qui regardent l'espace, qui s'intéressent à ça, puissent se dire aussi, c'est pas que un truc de mec, c'est aussi pour moi. Et la preuve, c'est qu'il y a des femmes dans le secteur spatial qui ont des rôles hyper importants, qui ont des histoires très intéressantes à raconter, et que j'écoute et que je reçois dans ce podcast, Elles font l'espace.
Comment choisissez-vous les personnes que vous interviewez?
Alors, il y a un processus très spécifique dans ce podcast. C'est que moi, j'ai d'abord des connaissances de par ma carrière. J'ai croisé beaucoup de femmes extraordinaires. Donc, la première liste, c'est un petit peu ça. La première liste de 10 noms, c'est je demande à des amis, des collègues, est-ce qu'elles accepteraient de venir dans le podcast. Et puis, il y a une chose qui se passe jamais quand on parle à des hommes, mais qui se passe quand on parle à des femmes, c'est qu'à un moment dans la conversation, la première conversation où on prépare l'entretien, toutes, et je le dis parce que vraiment ça m'a surpris, toutes les femmes à un moment te disent « Ah mais est-ce que t'as pensé à une telle? Elle est vraiment géniale. Est-ce que t'as pensé? Est-ce que tu connais cette femme-là? Elle est formidable. Je suis sûr qu'elle est déjà sur ta liste, etc. » Donc en fait, le simple fait de parler avec une première liste de 10 personnes, à la fin on se retrouve avec une liste de 40, 50 personnes à interviewer. Il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité, de l'ordre de la courte échelle chez les femmes, qui n'est pas forcément présent quand on parle à des hommes. C'est pas pour bâcher les mecs que je dis ça, mais c'est force est vraiment de constater ça.
Quelle personnalité que vous avez interviewée vous a le plus marqué?
Ah, c'est une question difficile. celle qui m'a beaucoup marqué, c'est Claudie Aigneret, peut-être, qui est venue dans, qui est la première femme française à être dans l'espace, puisque vous parliez des Mercury 13, et qui est allée deux fois, et qui est venue dans le podcast nous parler un petit peu de son attachement au spatial, de son attachement à la communauté des astronautes et à la communauté spatiale de manière générale. Ça, c'est un épisode que je trouve très très fort. J'ai beaucoup été aussi marqué par Laura-André Boyer, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisqu'on a commencé notre carrière ensemble, et qui a accepté de venir dans le podcast, qui raconte comment on devient instructeur d'astronaute, instructrice d'astronaute dans son cas, et qui nous parle aussi beaucoup des vols paraboliques. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Joséphine, les vols paraboliques.
Non.
C'est l'expérience de l'impesanteur dans un avion. En fait, un avion vole en parabole, il va très très, il se cambre à 45 degrés, ensuite il ralentit et il pique ensuite jusqu'à 45 degrés. Et pendant cette période, en haut de cette parabole qu'il va décrire, on est en impesanteur pendant une trentaine de secondes. Et elle est instructrice de vol parabolique. Elle nous raconte ça et c'est... Laura, c'est quelqu'un qui, dès qu'elle commence une phrase, elle raconte une histoire. Et donc c'est très très agréable de discuter avec quelqu'un comme ça.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et pour vos informations.
Merci à toi.
Merci Jules Grandsir de vous être déplacé.
Mission féminine.
Notre chroniqueur Adrien est arrivé, il vient nous parler de la contribution des femmes dans l'astronomie.
Des étoiles aux atomes, les femmes qui ont éclairé la science pendant longtemps. On a surtout entendu parler des hommes en science. Mais si on regarde bien, l'histoire est pleine de femmes scientifiques qui ont fait de très grandes découvertes, très importantes. Imaginez, au début, quand on regardait les étoiles, des femmes comme Hypatie d'Alexandrie, il y a très longtemps, étaient déjà expertes en mathématiques et en astronomie. Elles ont aidé à comprendre comment les planètes bougent, et puis, au fil des siècles, même si ce n'était pas toujours facile pour elles d'étudier, des femmes ont continué à avancer la science en cachette, parfois en travaillant à l'aide de leur mari ou de leur père. Pensez à Caroline Herschel, une super astronome britannique d'origine allemande. Elle a découvert plusieurs comètes nébuleuses et a été la première femme à recevoir la médaille d'or de la Royal Astronomical Society. Au début du 19e siècle et du 20e, les choses ont commencé à changer un peu. De plus en plus de femmes ont pu aller à l'université et travailler dans des laboratoires. Henrietta Swan Leavitt, de 1868 à 1921, astronome américaine, elle a découvert la relation période-luminosité des étoiles variables céphéides, ce qui a permis de mesurer la distance de l'univers. Mais il n'y a pas qu'elle. Ces femmes ont toutes apporté des contributions majeures à notre compréhension de l'univers et ont ouvert la voie aux générations futures d'astrophysiciennes. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'une découverte scientifique, n'oubliez pas qu'il y a peut-être une femme derrière celle-ci.
Merci beaucoup Adrien pour cette chronique.
C'est la fin de notre émission Mission Féminine. Merci à nos trois chroniqueurs, Adèle, Adrien et Juliane. Merci aussi à Joséphine et Jules Grandsir de s'être déplacés. Merci à Clémence pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et tous sur Radio Campus Paris.